Aujourd'hui sur PFM, on vous parle beatbox. Vous connaissez ?
Tu connais toi le beatbox ?
Un peu.
Tu connais des groupes ?
Non.
Tu pourrais nous faire une démo ou pas ?
Oui.
Pas mal, hein ? Bravo !
Mais ce sont des gens qui font des choses très impressionnantes avec leur bouche.
Et ça vous plaît ?
Ça peut être très intéressant dans certains contextes. Pas tout le temps, mais dans certains contextes.
Eh ben alors, du coup, vous m'avez expliqué. Oui, je connais. Enfin, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Oui.
Et est-ce que ça vous plaît ou...
Ben, ouais, bien. Okay. Après, on a des enfants qui font du break et du hip-hop, donc on reste dans la culture urbaine, il n'y a pas de problème.
Ça, je connais pas.
C'est vrai, tu connais pas le beatbox ? C'est, tu sais, les gens qui font de la musique, mais que avec leur bouche.
Ah, je sais pas faire.
C'est vrai, t'as jamais fait ?
Non, je l'ai jamais.
Bon, bah, là, je n'ai pas d'avis. Hein.
Pas d'avis, non.
Non, pas d'avis, non, on est trop vieux pour ça. Non.
Le beatbox, yes, I connais.
C'est assez impressionnant. J'étais persuadée qu'il y avait quand même des instruments, mais visiblement non. Et c'est, ouais, à part que c'est impressionnant et plutôt pas mal. Ouais.
Et ça vous plaît ?
Ouais, moi j'aime bien. Ouais.
Bah pareil, moi c'est quelque chose qui me plaît, et le principe de reproduire une boîte à rythme avec la bouche, moi je trouve ça vraiment cool, et il y a des gens qui font des trucs de fou.
Le human beatbox, ça signifie littéralement boîte à rythme, et ça consiste à chanter en imitant des instruments uniquement avec la bouche. C'est considéré comme le cinquième art de la culture hip-hop, parmi le rap, le breakdance, le mix DJ et le graffiti. Le beatboxer mobilise la totalité de son appareil phonique et buccal, contrairement au vocaliste qui, lui, utilise uniquement sa voix. Le human beatbox s'est répandu via le monde du rap dans les années 70 dans le Bronx à New York. Pour la petite histoire, les rappeurs du Bronx des années 70 ne roulaient pas sur l'or. Impossible pour eux de s'offrir une machine capable de reproduire un rythme. Ils se sont donc mis à les imiter à moindre coût avec ce qu'ils avaient sous la main, c'est-à-dire leur bouche. C'est comme ça que le beatbox moderne est né. Néanmoins, l'art de produire une mélodie rythmée avec sa bouche ne date pas d'hier. Il y a 600 ans déjà, on observait en Inde du Sud le konakol, une technique de percussion vocale. C'est dans les années 80 que le beatbox se démocratise dans le monde entier. De nouveaux sons et techniques sont inventés. On pense notamment au click-roll de Doug E. Fresh. On pense aussi à Razel, surnommé le parrain du bruit, ou à Kenny Mohamed, qui a introduit la Wind Technique et la Water Technique. Ils ont d'ailleurs collaboré sur un morceau, Four Elements, qui reste aujourd'hui un classique du beatbox. Damn you, you must be Scribbles. And DJ Slinky. My name is Razel, the godfather of noise. And here is my brother, Kenny Mohamed, the human orchestra. And if you are game, let's battle.
Round one, fight.
And just remember, it's man versus machine.
It's a must that I at all, it's a must that I bust, it's a must that I bust. Any mic that you hand to me, me. It's inherited, it runs in the family. I wrote the rhymes that pop, I wrote the rhymes that broke the most back,
you think about that? Hey, Scribbles, we'll crush you like some rice cakes.
Well, it seems to me that you're quite confident you can beat me.
Don't make me kick your ass. Don't.
your ass know that you still have much to learn now.
Le beatbox a fini par faire son apparition en France. Razel, vous savez, celui qu'on appelle le parrain du bruit. Eh ben, il est d'ailleurs présent sur l'album L'école du micro d'argent d'IAM, sur le morceau Dangereux.
Je suis dangereux, I am dangerous, dangerous, dangerous.
Et Laura, tu sais qu'il y a même des championnats nationaux et internationaux de human beatbox, et la France est en tête du classement. C'est le groupe toulousain Berry Wham qui détient le titre de champion du monde actuellement. Ils viennent d'ailleurs de sortir leur premier album, intitulé No Instrument.
1, 2, 3...
Original dancehall from Berry Wham. Boy, 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 boy. Pop, pop, pop. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. On s'apprend un moonwalk après un tango. On s'abat des trois pas si un rythme à tambour. Mes éclats en sonne, you know what we do. So let me tell you, quand battle de danse dans l'arena. Wood fuck, ma mère, on pop ma carena. Peut-être même aller sur ma descente pour le fena. Mais ma miami, on danse le bien. Faut bien, ma meuf, on fait l'ENA. Quand ça nous capait pour revenir, l'astica. Big pour sa café ou prépare ce statica. Tout ça ou apprenne, faut mettre en pratica. This is buried in man you cannot fight with.
On pense aussi à Prisha, franco-portugaise, sacrée championne de France de beatbox en 2020, qui se bat pour féminiser la scène du beatbox encore très masculine. Et si vous voulez en apprendre un peu plus sur le beatbox, elle a d'ailleurs lancé un podcast musical intitulé Prisha Talks. La première saison porte sur le cinquième art de la culture hip-hop. Vous pourrez retrouver des épisodes thématiques avec des invités du milieu, comme Julieta, River ou Collapse. On a d'ailleurs pu le rencontrer et lui poser aussi quelques questions.
Hold up, let me fuck it up.
Je m'appelle Julien, j'ai 25 ans et mon nom de scène c'est Collapse du coup. Et ça fait 12 ans que je fais du beatbox. J'ai commencé, j'avais 12 ans, aujourd'hui j'ai 25. J'ai commencé par faire beaucoup de compétitions, on va dire. Et dernièrement, je me consacre un peu plus sur l'aspect artistique. Donc je crée vraiment plus des. J'essaie de créer plus des musiques et de performer un peu plus sur scène de manière. Comme un concert, en fait. Vraiment, essayer de me développer dans ce domaine-là, parce que c'est vrai que la plupart des beatboxers, souvent, on commence tous par les battles, mais ça ne nous fait pas vivre, en fait. On est obligé, au bout d'un moment, si on veut vraiment continuer dans cette filière, de se professionnaliser, et la plupart du temps, on devient intermittent du spectacle, du coup. Moi, ce n'est pas encore mon cas, je suis auto-entrepreneur, mais voilà. Et c'est pour ça aussi que je me développe pas mal sur les réseaux, parce que c'est un bon outil pour moi pour amener des sources de revenus, en fait.
Justement, tu parlais des battles. Il paraît que tu es primé, c'est vrai ?
Non, ouais, carrément. Bah, ouais, donc, comme je disais, j'ai commencé par ça, en fait. Mon premier battle, ça devait être en 2012. Ouais, j'ai commencé assez jeune, en fait. J'ai été très vite bien accueilli dans la communauté française, parce qu'on est une grosse communauté en France, et c'est très, très bonne ambiance, très, très famille. Et, quand on commence et qu'on débute, on est très, très bien accueillis en général dans ce milieu, quoi. En tout cas, en France, c'est comme ça. Et donc, oui, donc chaque année, moi, j'ai essayé de faire les championnats de France depuis 2013. J'ai beaucoup fait de championnats de France. J'ai fini par les gagner en 2017. Derrière ça, c'est là que ça m'a ouvert un peu la porte aux événements internationaux, en fait. c'est ce qui m'a un peu propulsé, on va dire, sur un peu plus sur le devant de la scène. Moi, j'ai commencé à participer à des événements qui ont eu lieu du coup en Suisse, qui s'appelle le JBB. Et moi, donc c'était en 2018, j'ai commencé par là, on va dire. J'ai gagné un battle là-bas. Moi, j'ai gagné la catégorie 7 to Smoke. Derrière ça, j'ai fait d'autres choses la même année, en 2018. J'ai participé au championnat du monde. J'ai fait top 16. Derrière ça, j'ai participé du coup au JBB 2019 qui a eu lieu en Pologne cette fois-ci. Bah, après, il y a eu le Covid, forcément. Il n'y a pas eu de battle pendant longtemps. Moi, je suis revenu l'année dernière, en 2021, pareil à Varsovie, en Pologne. J'ai participé en solo et en duo avec River. J'ai un duo avec lui. On a perdu en duo et j'ai gagné en solo, du coup.
On revient en arrière, du coup. Est-ce que tu as une anecdote où tu te souviens très bien de comment tu as découvert le beatbox et comment tu as commencé à t'y intéresser et à t'y consacrer?
Alors moi, la première fois que j'ai écouté du beatbox, c'était en 2006. C'était la nouvelle star avec Poulpo. Forcément, j'ai trop kiffé direct, mais je me suis pas dit je vais en faire, tu vois. C'est venu beaucoup plus tard, quand j'étais au collège en sixième, où là, dans la cour de récréation, j'ai entendu un mec faire des bruits de bouche, en fait. J'avais l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part avant. Du coup, je tourne la tête et je vois la personne, effectivement, qui fait du beatbox, quoi. Du coup, je vais direct le voir. On discute un peu. Je lui parle de Poulpo. Il me parle des choses qu'il connaît. Je ne me souviens plus trop de ce qu'on a dit, mais il se trouve qu'il a commencé à me dire, viens, fais-en avec moi si tu kiffes. Du coup, j'ai commencé à en faire avec lui comme ça, mais vraiment pour le fun. Et au fur et à mesure des récréations et des années de collège, il y avait de plus en plus de monde qui s'attroupait autour de nous pour nous écouter, en fait, faire des beatbox dans la cour de récré. Voilà comment j'ai commencé, en gros.
Nous, on se demandait aussi si tu avais des modèles dans le beatbox et des gens qui t'ont inspiré.
Le truc avec le beatbox, c'est que c'est super changeant tout le temps. Et ça suit beaucoup aussi le cours de la mode, de la musique, de manière générale. Et en inspiration, il y avait Kim. Kim, c'est un beatboxer qui m'a beaucoup inspiré. Il est de Paris. Et aujourd'hui, j'ai la chance de bosser avec lui. On a un groupe ensemble qui s'appelle End of the Game. Il y a eu Alem, il y a eu Skiller. Donc Alem, c'est le champion du monde français aussi, 2015. Et Skiller, c'est le champion du monde 2012, du coup. Donc ça, c'est vraiment des grosses inspirations pour moi dans mon style. C'est en écoutant de la musique, personnellement, que je me suis développé. J'ai développé mon style, on va dire, mais c'est en écoutant un petit peu de tout. Même avec mon duo River, là, on est tous les deux franco-colombiens, en fait. On écoute beaucoup de musique latine ensemble. On essaie de faire ressentir ça dans ce qu'on crée, en fait.
Quand tu énumères tes modèles, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de noms de femmes beatboxeuses qui sont citées. Toi, tu as des références françaises ou internationales. C'est quoi la place de la femme dans le beatbox aujourd'hui?
Quelqu'un, c'est Pechenkata. C'est une Bulgare qui a été championne du monde 2012, qui a été aussi une grosse source d'inspiration. C'était la première femme à participer vraiment dans des événements internationaux à très, très haut niveau et contre des hommes aussi. Et elle en a battu beaucoup. Je pense que c'est une des seules qui a était aussi loin, en tout cas, dans les compétitions internationales contre des hommes. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un peu plus de mal à recréer ça, en fait, dans la communauté. Il y en a toujours des beatboxeuses, il y en a même plus qu'avant. En France, on a Prichia, elle est championne de France actuelle, et qui fait aussi beaucoup de battles, qui a déjà battle beaucoup, beaucoup d'hommes et qui en a battu beaucoup aussi. Donc ça, c'est super cool, ça fait plaisir. Julieta aussi. On a Lexité. Bon, là, c'est des beatboxeuses françaises qui sont vraiment sur le devant de la scène en France, en tout cas. Et Prichia, je pense qu'elle a de grandes chances, en tout cas à l'international, de faire des choses vraiment cool. Là, elle participe au championnat d'Europe qui va avoir lieu en Autriche. Donc voilà, va représenter la France pour les championnats d'Europe. Du coup, voilà. Parce que c'est vrai que pendant très longtemps, on a, toujours séparé les catégories. Donc, il y avait catégorie homme et catégorie femme. On a tendance à maintenant plus laisser le choix, en fait. En gros, maintenant, il va y avoir une catégorie mixte, il va y avoir une catégorie femme, mais si les femmes, en gros, si elles veulent s'inscrire dans la catégorie mixte, elles ont le droit. Donc, les hommes, ils n'auront que la catégorie mixte possible, en fait. Aujourd'hui, c'est ça qui est un peu fait pour essayer tout simplement de mettre plus en avant les beatboxeuses de manière générale, parce que c'est vrai que c'est un domaine très, très, très masculin. Et depuis longtemps. Donc maintenant, on essaie vraiment de faire en sorte qu'il y ait vraiment une place un peu beaucoup plus importante, en tout cas pour les femmes, et essayer de trouver des moyens un peu comme ça, catégorie mixte, pour justement ramener les choses un peu au même niveau, quoi.
Du coup, rien à voir. Mais on se demandait comment on arrive physiquement à produire des sons pareils juste avec son appareil phonique. S'il y avait des techniques particulières, même pas forcément physiques, mais aussi électroniques.
Enfin, de manière générale, on sert un peu de tout ce qui est phonatoire, quoi. Donc le nez, la gorge, les lèvres, même les dents, elles peuvent servir. Et en général, on apprend pour commencer des petites phrases. C'est ce qui est le plus ludique, on va dire, pour les gens qui commencent. Donc ouais, il y a des petites phrases. On sert beaucoup de l'alphabet, du coup, en disant des PTK, PTK, poste à capuche, des postes à capuche, poste à capuche, des postes à capuche, poste à capuche, des postes à capuche. Après, c'est vrai que pour développer et aller plus loin, il faut vraiment commencer à s'intéresser au sujet plus en profondeur. Mais on a la chance aujourd'hui d'avoir YouTube et énormément de tutoriels à disposition. Et il y a des trucs qui sont super bien maintenant, vraiment pour apprendre le beatbox en ligne. C'est vrai qu'après, il y a la Loopstation, du coup, qui s'est développée. C'est vrai que ça, maintenant, c'est une part très, très importante dans la communauté. Et les mecs, ouais, ils font des trucs de ouf. Ils peuvent faire n'importe quel style de musique. Et c'est juste en utilisant la voix et en rajoutant des effets derrière, tout en bouclant, etc. On peut vraiment créer des tracks complètes, quoi. En gros, les possibilités, elles n'arrêtent jamais de grandir, en fait. Et il y a un truc stylé aussi qui a lieu chaque année, c'est le Growl Up. En gros, c'est un beatboxer et un instrument qui beatboxent ensemble.
Question bête, mais je me demandais s'il y avait des échauffements de voix aussi.
Donc nous, on fait pas trop ça, en vrai. On n'a pas trop cette culture du chant où il faut vraiment faire un truc comme ça, tu vois. C'est des trucs d'exercice assez connu de voix. Mais c'est vrai que les beatboxers, ils font rarement ça. Ils le font, mais pas tous. Ouais, on n'a pas cette habitude, en fait, de manière générale. Il n'y a pas encore ce côté où on fait très attention à notre manière de vivre ou ce genre de choses. Il y a beaucoup de beatboxers qui fument. Et ça, c'est très, très mauvais, surtout parce qu'on ne fait que respirer tout le temps, on ne fait qu'utiliser notre voix tout le temps. Et donc, c'est vrai qu'on n'est pas très, très sensibilisé aux échauffements de voix ou faire attention vraiment à nos modes de vie, etc. Enfin, moi, par exemple, donc je ne fume pas, j'essaie de faire attention, mais c'est vrai que je ne m'échauffe pas forcément la voix. Par contre, après, quand je sens que je travaille un peu trop, il faut que je me fasse des petits massages au niveau des mâchoires, ce genre de choses. Après, ça dépend de ton style de beatbox aussi, parce que il y a des beatboxers qui vont beaucoup, beaucoup utiliser la voix et qui vont carrément avoir une formation de chant avant ça. Et au contraire, d'autres qui vont apprendre sur le tas et qui vont beaucoup moins utiliser leur voix de manière générale dans leur style. Moi, je suis plus un de ceux-là, c'est que je n'ai pas de formation de chant à la base. Quand j'ai commencé le beatbox, c'était très, très percussif. Donc, j'utilisais vraiment tous les sons qui sont faisables avec la langue, les lèvres, le nez. Mais il n'y avait pas forcément beaucoup de voix dans moi, ce que je faisais personnellement. Du coup, je n'avais pas forcément à me soucier de m'échauffer la voix. Maintenant, c'est un peu différent. Mon style a encore évolué. Et du coup, maintenant, j'utilise beaucoup, beaucoup ma voix. Et c'est vrai que je songe du coup à prendre des cours de chant. Parce que c'est toujours utile et ça me servirait beaucoup, même juste pour apprendre à bien m'échauffer la voix, etc. Et voilà, parce que ça peut être dangereux. Je pense qu'on peut y a moins de se blesser quand même en faisant du beatbox. Même si c'est, je pense que c'est jamais arrivé. Il y a quelqu'un qui s'est cassé une dent une fois en faisant du beatbox. Mais oui, c'est un truc qu'il faut suivre, parce qu'au final, c'est devenu un peu un sport de haut niveau. Dernièrement, sur les dernières années, le beatbox, c'est devenu très, très, Bah, il faut du cardio, il faut du souffle, il faut faire attention à la gorge avant les battles, etc. Moi, par exemple, un mois avant un battle, je fais super attention à pas avoir les lèvres sèches, par exemple, ou à bien me couvrir la gorge quand je sors, ce genre de choses. Parce que si j'ai un petit problème ou juste une aft, un truc à la con, quoi. Mais ça me bloque totalement dans mon beatbox et c'est pas cool, quoi.
Tu nous as parlé tout à l'heure des réseaux sociaux que tu essayais de développer, que tu développes et qui sont développés, parce qu'on a vu que sur TikTok, ça marchait bien, tout ça. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire en plus à propos de ça ?
Bah ouais, il y a des gens qui me contactent par rapport à ça, quoi. Donc, ça m'est déjà arrivé d'obtenir des shows, des concerts grâce à mes réseaux sociaux, ce genre de choses. Donc vraiment, ça me sert aussi à créer un réseau, en fait. Et ouais, j'essaie d'être présent partout. Ouais, c'est important aujourd'hui, quand on a envie de devenir artiste, je pense, d'être un peu présent partout pour faire parler un maximum de sa musique, etc., quoi. C'est vraiment ça qui m'a permis, on va dire, de développer mes réseaux, c'est l'aspect divertissement où, en gros, je crée des concepts autour du beatbox, notamment sur ma chaîne YouTube. Ça peut aller de la création de musique avec six autres beatboxers à une vidéo Omegle, à n'importe quel concept qui est relié au beatbox, en fait.
On a vu, ouais, du coup, que tu avais sorti des sons sur Spotify, sur YouTube. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet aspect ?
Comme je disais, les battles, ça ne permet pas de gagner de l'argent, quoi. On n'a pas trop encore cette culture d'être payé pour faire un battle. Par exemple, pour le JBB, on se déplace à nos frais. Et derrière, ce qu'on gagne, c'est plutôt de l'équipement. Mais on ne touche pas vraiment d'argent encore. Et justement, ça fait un peu polémique dernièrement, en tout cas, parce que les gens, ils aimeraient bien faire une carrière par rapport au battle, en fait. Moi, j'adorerais faire ça. Je pense que c'est encore un peu trop tôt et il va falloir que ça se développe un peu plus dans cette direction à l'avenir. Mais en attendant, je me consacre un peu plus sur l'aspect concert, sortie de musique. Donc, je fais mon truc à moi parce qu'aujourd'hui, c'est très important d'être indépendant par rapport à ça. Parce que beaucoup de beatboxers dépendent de Swiss Beatbox. C'est la plus grosse chaîne de beatbox sur YouTube. Bah, c'est notamment sur cette chaîne que sont uploadées les vidéos du JBB. Et c'est très bien pour commencer, sauf que si derrière, il n'y a pas de projet concret pour permettre de vivre, ça ne sert à rien, en fait. C'est vraiment... tu auras de la visibilité peut-être un ou deux mois et après, les gens auront tendance à oublier, quoi. Donc moi, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir être indépendant par rapport à ma communauté, les gens qui me suivent, d'avoir une bonne base par rapport à ça et pas de dépendre de quelqu'un d'autre. Et même là, je vais donner des cours de beatbox, je vais commencer le mois prochain. Donc vraiment, j'essaie de me diversifier un peu sur tous les domaines pour transformer ce qui était une passion des battles, etc., en vraiment un métier. Et voilà, je fais de plus en plus de concerts, j'essaie de multiplier les projets. Donc j'ai mon groupe, on est 4 beatboxers, j'ai mon duo avec River, j'ai mon projet solo aussi, je sors mes musiques. Donc voilà, donc j'essaie vraiment d'un peu tout faire pour parce que j'ai envie de faire ça dans la vie, quoi. Voilà.
Et du coup, tu arrives à vivre du beatbox aujourd'hui ou pas encore ?
Si. Bah là, ça fait 2 ans. C'est un domaine assez... quand on est entrepreneur, c'est toujours... Il y a des hauts et des bas, quoi. Donc, il faut faire assez attention. Et c'est pour ça que cette année, j'essaie vraiment de stabiliser mes revenus en quelque sorte. Parce que moi, je touche beaucoup d'argent par rapport à YouTube. Mais des fois, ça fluctue beaucoup, en fait. Donc, c'est assez problématique. Et c'est pour ça que je vais commencer à donner des cours, ce genre de choses. Voilà.
On a vu, en se renseignant un peu, qu'un article du Parisien qui disait que tu étais suivi par un chercheur du CNRS qui enquêtait sur le beatbox.
C'est un chercheur du CNRS qui fait, il fait une thèse en fait sur le beatbox. On nous a demandé de beatboxer en nous insérant, donc c'était un tube dans le nez qui redescend dans la gorge du coup. C'est pas terrible. Puis ça a duré 30 minutes, je crois, un truc comme ça. Donc fallait tenir, c'était pas très agréable. Ça faisait des mesures peut-être sur la pression de l'air ou les va-et-vient de l'air, quoi. Je sais plus. Il y avait plein d'outils, donc j'étais pas sûr de comprendre l'utilisation. On a fait une deuxième expérience c'était encore plus chiant. C'était en gros, donc on avait un truc qui bouchait cette narine-là. Il y avait un autre tube qui passait derrière et on beatboxait dans un truc qui nous recouvrait la bouche comme ça. Donc ça faisait les trois en même temps. C'était assez bizarre et ça faisait trois mesures différentes là aussi. Encore pour mesurer les débits d'air, la pression, etc. quoi. Il y a une troisième expérience qui est prévue, c'est de nous faire passer. C'est une IRM, je crois. Mm-hmm. Ouais. Je crois que c'est ça. C'est pour faire une IRM et pour vraiment avoir une coupe en fait de ce qui se passe à l'intérieur de la bouche, etc. quoi.
Du coup, c'est une recherche vraiment scientifique anatomique.
Ouais, c'est plus pour comprendre est-ce que le beatbox est déjà dangereux pour ceux qui le pratiquent. Est-ce que il est possible de soigner certaines choses avec aussi. Par exemple, ceux qui ont des troubles de la parole. Est-ce que en faisant du beatbox, ça leur permettrait pas de muscler leur langue un peu plus pour pouvoir prononcer certaines lettres qu'ils n'arrivaient pas à faire avant, quoi. Donc, je connais une orthophoniste qui a commencé à utiliser le beatbox justement pour soigner les troubles de la parole. Et apparemment, les résultats sont assez cool.
On ne pouvait pas finir ce reportage sans essayer le beatbox. Ça nous a tellement impressionnés qu'on s'est prêté au jeu lors d'ateliers d'initiation proposés par le Pharos.
Bonjour, donc je m'appelle Sébastien et mon nom de scène c'est Black Adopo et je fais du beatbox depuis maintenant 22 ans. J'ai eu la chance de pouvoir participer au premier championnat de France de l'histoire en 2006 et j'ai fait tous les championnats de France de beatbox jusqu'en 2010 et en 2010 j'ai réussi à arriver jusqu'en quart de finale et j'ai eu la chance l'année d'après de pouvoir l'organiser. On avait organisé le championnat de France de beatbox à Lille, à la maison Free d'Oisem, et je me suis placé présentateur du championnat. Et après, j'ai pu le présenter jusqu'à la dernière fois que j'ai présenté le championnat de France de beatbox, c'était en 2020.
Vous animez des ateliers, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Alors, je fais des ateliers déjà depuis pas mal d'années. Je crois que mon premier atelier, ça doit être 2003 ou un truc comme ça. Donc ça fait déjà presque 20 ans.
Très bien, vous voyez, vous êtes en train de faire une mélodie et une rythmique.
Donc dans ces ateliers, le but c'est de faire découvrir ma passion, parce que c'est vraiment une passion le beatbox, de parler son histoire, parce que j'aime bien de savoir de quoi on parle et d'où ça vient, d'essayer de voir comment on peut faire 2-3 choses en beatbox, et puis de découvrir tout l'univers qu'il y a autour, à la fois de par les boucleurs, de par la pratique, etc., de ce qu'on peut trouver en France et dans les autres pays.
Vous avez des projets à venir ?
J'ai créé une compagnie avec ma compagne qui s'appelle la compagnie L'Électron Libre. Dans cette compagnie, en fait, on développe beaucoup en ce moment le beatbox avec le térémine, le plus ancien instrument électronique de l'histoire qui date de 1920. C'est une sorte de boîte avec des antennes et on contrôle la musique sans toucher l'instrument. Et donc ma compagne Charlotte Dubois fait du térémine et on aime bien explorer. En plus, quand on regarde sur YouTube ou quoi, on trouve pas trop de choses comme ça. On n'a jamais vu un beatboxer avec un téréministe. Donc on essaie d'explorer cet instrument, le térémine, avec le beatbox et aussi enseigner. On fait souvent des formules où au début on va faire un atelier térémine, un atelier beatbox et après voir comment ça peut se croiser et des fois on a fait des formules où on fait un concert au bout ou même des fois où les jeunes sont intégrés dans le concert pour essayer de s'initier au térémine et au beatbox et aux nouvelles technologies aussi vu que je suis un geek qui adore les nouvelles technologies.
Petit K, c'est petit K, petit K, c'est petit K. Petit cassé, petit.
Voilà, et maintenant on va le chuchoter. Ça va faire petit cassé, petit. À vous.
Petit cassé, petit.
Très bien.
Petit cassé, petit.
C'est ça, vous voyez ? Alors après, il faut l'entraîner. Mais la base, elle est là. On rit par le nez, voilà, comme ça. Et on peut rajouter des rythmes. Et au début, je fais. Et au fur et à mesure, j'ai réussi à dissocier vraiment les deux.
Si ce reportage vous a donné envie de découvrir davantage la culture hip-hop, sachez que l'atelier beatbox que l'on vient de vous présenter s'inscrit dans un projet plus global intitulé Tiek Art. On laisse Céline nous en dire un peu plus.
Je travaille pour le Pharos, la ville d'Arras, qui est du coup un équipement culturel de proximité. Donc là, on se situe dans la médiathèque Verlaine, qui est la médiathèque attenante au Pharos. Donc là, on travaille cet après-midi ensemble sur la présentation d'un des 4 labs urbains qui fait partie du projet Tiek Art, dont l'idée est de pouvoir faire découvrir aux habitants du quartier, mais aussi des quartiers, de ce qu'est la culture hip-hop.
Alors nous, justement, on a participé à un petit atelier beatbox aujourd'hui, c'était trop génial. Et donc ça fait partie de ce projet, vous pouvez m'en dire un petit peu plus ?
Du coup, Tiekar, c'est un projet de développement des cultures urbaines qu'on développe depuis le début de l'année et jusqu'au mois de juin 2023. C'est un projet qui est accompagné et financé par l'État dans le cadre des appels à projets du contrat de ville. Donc du coup, on est sur un projet en trois phases. Une première phase autour de 6 mois, l'idée c'est de faire découvrir ce qu'est la culture hip-hop. Donc on mène donc avec Yannick, qui est médiateur des cultures urbaines pour le Pharos, un travail de sensibilisation des publics, des habitants, scolarisés, non scolarisés, du coup pour faire découvrir ces pratiques. Avant d'entamer une deuxième phase, du coup à partir du mois de septembre, dans le cadre d'une résidence artistique avec la compagnie Les Gypsy Row, qui ira là s'immerger dans les quartiers pour faire découvrir l'une des quatre disciplines qui est la danse hip-hop. Du coup, avec des rencontres, des impromptus artistiques dans les quartiers, en vue de continuer ce travail de sensibilisation et d'arriver sur l'année 2023, sur le premier semestre, à une création en fait d'une petite forme entre habitants amateurs et professionnels, petite forme de 10-15 minutes qui sera elle-même ensuite tournée et jouée dans les différents quartiers.
Du coup, c'est principalement des ateliers, des représentations.
C'est ça. Alors, on a différentes choses parce qu'on a, par exemple, là, sur notre première phase de découverte de la culture hip-hop, on accueillera aussi Rachid Amenzou avec de la conférence dansée. Rachid Amenzou a écrit un livre sur la culture hip-hop et plus particulièrement le focus de la danse qui s'appelle Zoom. Donc du coup, c'est des ateliers découvertes, des ateliers de pratique, des conférences dansées, de la création artistique. Donc on a vraiment la découverte, l'initiation, la création résidence artistique et puis la production d'une forme aussi créée.
Et tout ça, c'est gratuit ?
C'est effectivement en accès libre et gratuit sur inscription. Il ne faut pas hésiter à regarder notre page Facebook du Pharos, à venir se renseigner aussi auprès de l'équipe pour voir comment participer et à quel moment. Et on saura les guider.
Et donc ça s'adresse à tout le monde ?
Ça s'adresse à tous les publics. L'idée, c'est de faire un projet intergénérationnel. Alors du coup, en termes d'accessibilité, nous, on a plutôt tendance à dire à partir de 7-8 ans. Mais sinon, c'est ouvert à tous. Et qu'on soit, qu'on pratique ou qu'on ne pratique pas, surtout, on peut venir.
Est-ce que vous avez des prochains rendez-vous peut-être à me donner ?
Prochain rendez-vous, donc on sera avec le 4e Lab Urbain autour de la danse sur la brocante de l'Hippodrome en partenariat avec le Centre Social Arras Ouest. Du coup, place Courbet, la compagnie Gypsy Row sera là pour dispenser des ateliers de 13h à 17h.
Et quel jour ?
Dimanche, ce sera le dimanche 15 mai. Et après, on sera sur l'accueil de Rachid Amenzou aussi, qu'on peut quand même mentionner. Donc, on revient à la médiathèque Verlaine le samedi 18 juin, après-midi, entre 14h et 16h. Et il sera aussi quartier Jean Jaurès à Arras, du côté de la Casa Jean Jaurès, le vendredi 3 juin, de 18h30 à 20h30.
C'était un reportage sur le beatbox et la culture hip-hop avec la participation de Collapse, Black Adopo et Céline Cardon du Pharos.
Un reportage réalisé par Laura Baker et Zoé Dejager pour Radio PFM. Toute la playlist est à retrouver sur le www.radiopfm.com. Hey,
Merci beaucoup.